Pour un oui, pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
Il était une fois, F-O-I, celle d'un philosophe, sociologue, écrivain, un homme qui fut 10 années durant directeur de la rédaction du Monde des Religions avant de se décider il y a quelques semaines à partir vers de nouveaux horizons. Est-ce à dire qu'il a fait une croix sur la religion? Certainement pas. Producteur des Racines du Ciel sur France Culture, il est l'auteur d'une 40aine de livres, dont certains traduits dans plus de 20 langues. Et comme si cela ne suffisait pas, il a juste aussi co-dirigé 3 encyclopédies. À chaque nouvelle parution, ses lecteurs, croyants ou pas, n'ont qu'une volonté, se hâter à le lire. Et je dois confesser ici que j'en fais partie. Ne se faisant jamais prier pour nous éclairer sur son savoir, à notre invitation, il a répondu « Dieu merci » positivement. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Votre nouveau livre paru chez Fayard s'appelle « Du bonheur », sous-titré « Un voyage philosophique ». On peut dire que c'est un essai. Un essai réussi selon vous? Est-ce que vous avez du bonheur à le relire aujourd'hui?
Non, je ne relis jamais mes livres.
Ah!
Je n'ai jamais relu un seul de mes livres, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est fait, et après ils vivent leur vie. Vous savez, un livre c'est comme un bébé, hein, c'est un enfant. Et nos enfants, ils vivent leur vie, et voilà, ils ne nous appartiennent plus. Donc mon livre, il vit sa vie. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Je reçois des mails de gens qui sont emballés, puis il y a des fois des gens qui sont pas contents, qui vous disent voilà, c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc après, ça m'est égal d'ailleurs, hein, un petit peu. Une fois que les choses sont faites, et ben je suis heureux de l'avoir fait. J'ai eu beaucoup de plaisir, même si ça n'a pas été si facile que ça, parce que c'est un sujet extrêmement délicat, parce qu'il est apparemment banal. Et donc on se dit le bonheur, il y a tellement de bouquins sur le bonheur, moi j'en ai lu tellement aussi, je me suis dit c'est un sujet qui me passionne, mais comment arriver à dire quelque chose sur ce sujet qui ne sont pas des portes ouvertes, qui n'a pas été déjà dit 10 fois, etc. Et en même temps, je sentais bien dans tout ce que j'ai lu que je ne trouvais pas quelque chose qui me satisfaisait. Et j'ai eu envie de faire le livre, ben voilà, qui me satisfaisait, et j'espère qu'il satisfera les lecteurs, c'est-à-dire un livre qui fasse un regard croisé sur cette question du bonheur entre d'un côté la philosophie occidentale où il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais aussi ce qu'on connaît beaucoup moins, la philosophie orientale, aussi bien indienne que chinoise, et puis les sciences contemporaines. Et je crois que ce croisement de ces trois regards apporte quelque chose de nouveau.
Pourquoi ce sujet et pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez décidé?
Moi, la question du bonheur m'intéresse comme presque tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'on se pose tous la question d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on ne se la pose pas forcément, mais on recherche instinctivement d'une manière ou d'une autre à s'épanouir. Mais par des voies très diverses. Ce qui me rend heureux moi, c'est peut-être pas ce qui vous rendra heureux vous. Mais en tout cas, on recherche tous une forme d'épanouissement. Donc la question du bonheur, c'est un mot comme un autre. Il n'existe pas dans d'autres langues, mais l'équivalent existe. La question de l'épanouissement, la question de la satisfaction de sa vie. Et donc on cherche tous à être satisfait dans notre vie. Et donc finalement, cette question-là m'intéresse comme tout le monde. Et je m'aperçois, comme je suis philosophe, que elle est traitée avec une grande diversité de débats, de points de vue, et je trouvais intéressant de faire émerger dans un livre toutes ces lignes de fracture, tous ces débats. Je suis un philosophe qui n'est pas du tout une idéologie. J'ai pas envie de transmettre une idée toute faite du bonheur. Je dis c'est complexe et voilà ce qu'en dit un tel, voilà ce qu'en dit un tel. Voilà que je mets en perspective les points de vue finalement et je laisse au lecteur se faire son opinion personnelle.
Votre actualité, c'est ce livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui se vend très très bien. Vous me disiez juste avant l'émission que vous avez dépassé les 150 000 exemplaires vendus, donc énorme succès.
Oui, en 2 mois, c'est beaucoup, effectivement.
L'autre actualité, c'est que vous quittez le Monde des Religions, après 10 ans passés à la tête de ce journal. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette décision?
Ben, tout simplement, enfin, je dirais qu'il y a 2 raisons. Mais la plus simple, la plus évidente, c'est qu'au bout de 10 ans, on s'use. Et 10 ans de responsabilité dans un journal où j'ai fait beaucoup de choses passionnantes, forcément, je fais des choses moins passionnantes aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai moins d'intérêt à le faire. Je refais des dossiers que j'ai déjà fait il y a 5 ans. Je retouche au même sujet. Je me suis dit, ma motivation n'est plus la même. Et je pense qu'il faut savoir dans la vie, alors que c'est quand même très agréable d'être directeur d'un journal, il faut savoir tourner des pages. Et je peux me le permettre, puisque je gagne bien ma vie en tant qu'auteur. Donc je peux me permettre de quitter un poste salarié et je le fais parce que j'y trouvais moins de plaisir. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de consacrer le temps que je vais avoir en étant en n'ayant plus cette charge, j'ai envie de consacrer ce temps à voyager, j'ai envie de prendre plus de temps pour faire autre chose, j'ai des projets de cinéma, enfin voilà, je vais m'investir dans autre chose qui est encore en grande partie de l'inconnu pour moi.
À propos de cinéma, je vous propose de vous emmener tout de suite au cinéma, le plus beau des cinémas, celui qui n'a pas d'image, avec ce montage d'Alexandre Lemierre qui revisite la religion revue par le 7e art.
Hier, ils ont tué encore un imam dans la rue.
Ah, la viande, tout.
Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer.
Ma décision est prise. Je refuse.
Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment?
C'est un risque.
Toi, t'as déjà été amoureux?
Oui, plusieurs fois. Oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là.
Martin Scorsese brings us a startling vision. An extraordinary story. The last temptation of Christ.
Quand t'étais petit, t'étais fan de Fred Astaire. Après, ça a été Mick Jagger. Maintenant, c'est Jésus. Catholique, quand même fort très sexy.
J'ai pas choisi, Hortense.
Vous avez peur de répondre à cette question toute simple? Qui a envie d'être aimé?
Ain't always look on the bright side of life.
Come on!
Always look on the bright side of life.
Qui a envie d'être aimé?
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Frédéric Lenoir, vous avez reconnu quelques films?
J'ai reconnu tous les films.
Ah, tous les films. Je vous écoute. Voilà. Vérifier ça.
Ah, je savais pas que c'était un jeu.
Ça ne l'était pas jusqu'à maintenant.
Bon, ben, le début, c'est Les Hommes et les Dieux, Xavier Beauvois. On entend la voix de Lambert Wilson et Michael Lonsdale. Les moines de Tibérine. Après, je suis plus dans l'ordre. Hein. Après, j'ai entendu La dernière tentation du Christ de Scorsese. C'était, je sais pas, celui qui venait après. Bon, après, il y a eu La vie est un long fleuve tranquille, le fameux prêtre qui joue de la guitare là,
Étienne
Châtillaise, et puis Catholique anonyme. Qui a envie d'être aimé, c'est ça?
Exactement, formidable, tout est dit. Catholique anonyme, c'était le titre du livre de Thierry Guizot, qui a été adapté par sa femme, la réalisatrice Anne Giaferri. C'était son premier film, donc qui s'appelle Le film Qui a envie d'être aimé. Très beau film, beaucoup moins vu que Des Hommes et des Dieux. Des Hommes et des Dieux, c'était un succès incroyable. 3 millions d'entrées.
Et puis, il y a eu La vie de Brian aussi.
La vie de Brian,
à la
bravo.
Fin, le dernier, qui est aussi sur la croix. J'adorais ce film. C'est sans doute celui que j'ai préféré de tous.
L'histoire de Qui a envie d'être aimé est une histoire. D'ailleurs, je conseille vraiment aux auditeurs d'aller le voir parce qu'il a pas fait beaucoup d'entrées, ce film. Je pense qu'il est en DVD aujourd'hui. Et c'est vraiment un film qui mérite d'être vu, qui raconte donc l'histoire vraie d'un homme qui un jour se retrouve confronté à la découverte de sa foi et qui le vit de manière très ambivalente. D'un côté, il y a la révélation, il y a ce bonheur de s'être enfin découvert ainsi. Et puis parallèlement, une forme de honte, d'énorme malaise à avoir à le dire à sa femme, à ses amis, de peur d'être incompris. Vous racontez dans l'un de vos livres que vous, à 19 ans, dans un monastère breton, vous avez lu les évangiles et que vous avez vécu cette expérience. Mmh. Est-ce que vous avez rencontré aussi cette même peur?
Oui, c'est pas facile parce que c'est comme tomber amoureux, quoi. C'est une expérience extrêmement intime. On est toujours ridicule quand on en parle, quand on dit eh ben, je tombe amoureux. Puis on a un langage, les yeux dans les étoiles, etc. Et on dit bon bah très bien. Là, on en reparlera. Ça se communique pas, si vous voulez. Surtout que les autres qui ne vivent pas la même expérience sont mal à l'aise. Quand vous êtes amoureux, puis les gens en face de vous le sont plus, puis longtemps, ou ne sont pas vraiment, ou viennent de vivre une rupture, vous les énervez. Donc allez parler.
Pourquoi est-ce qu'on les énerve d'après vous?
Ben vous savez, j'en parle dans mon livre sur le bonheur. c'est que le bonheur des autres nous énerve. Il faut pas trop montrer qu'on est heureux, malheureusement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui gêne ceux qui le sont pas ou qui le sont moins. C'est la nature humaine est ainsi faite. Donc là, je crois qu'effectivement, quelqu'un qui vit une expérience qui le bouleverse, qui le met dans une joie très profonde et que les autres ne peuvent pas comprendre ce que c'est que cette expérience parce qu'ils l'ont pas faite ou qu'ils l'ont plus faite, c'est dur de le communiquer. Ce qui fait que moi, effectivement, c'est quelque chose que j'ai gardé comme quelque chose de plutôt intime. Mais quand on m'en parle, j'en parle très facilement. Je suis très à l'aise avec ça.
Pour un oui ou pour un son.
Ou si tu veux de moi, je mets sur un plateau un écran plasma, deux pinces à vélo. Tes doigts fragiles, ma guitare nylon contre le froid imbécile, ce bel édredon. Si tu veux de moi, l'affaire est dans le sac, tout ça est à toi, top dans la main. Si tu veux de moi, je rajoute en plus ticket restaurant, huîtres et mollusques, le dimanche au bois sur mon vieux Solex, pour le cinéma, un paquet Kleenex et toujours plus fort, bonus cadeau, les 10 du cadeau Ferrer Nino. De moi, tu auras tout ça et bien plus encore. Tu auras mon corps si tu veux de moi. Ou si tu deviens mienne, je remplis le frigo, je descends les poubelles, la vraie vie de château. Ou si tu veux de moi, je change mon papier peint, je refais la cuisine et la salle de bain. À grande écoute, cerise sur le gâteau, je te passe en boucle les 10 de Nino. Moi, si tu veux de moi, si tu veux de moi, tu auras tout ça, tu auras tout ça, et bien plus encore, tu auras mon corps. Si tu veux de moi.
Louis Chédid, si tu veux de moi.
Pour un oui. Pour un son.
Frédéric Lenoir est aujourd'hui l'invité de Pour un oui, pour un son à l'occasion de la sortie chez Fayard de son nouveau livre, nouvel essai du bonheur, sous-titré Un voyage philosophique. Selon l'Eurobaromètre 2005, 48% des citoyens suisses pensent qu'il existe un dieu. Donc un Suisse sur deux, 39% croient en une sorte d'esprit ou une force vivante et 9% déclarent ne croire ni en un dieu ni en un esprit ou une force vivante. Ça veut quand même dire que 4 Suisses sur 10 ont foi en une entité mais non déterminée. Est-ce que ce n'est pas un peu l'échec des religions traditionnelles qu'ont perdu aujourd'hui de leur capacité à convaincre, à mobiliser ?
Et je crois qu'effectivement on assiste à une crise très forte des religions traditionnelles qui ont, de mon point de vue, un peu trop anthropomorphamisé, rendu Dieu humain, si vous voulez, anthropomorphamisé. Bon, j'arrive pas à le dire, tant pis.
On a compris.
On a compris. Vision anthropomorphique de Dieu. Et du coup, les gens qui ont un esprit critique, qui réfléchissent, se disent, mais bon, on a projeté sur Dieu ce qu'on est. Avec des émotions, une intelligence, une volonté, un libre arbitre, etc. Et au fond, je crois que cette vision-là, dans la modernité critique, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui de connaissance, de la science et tout, elle est très dure à tenir. Elle est très dure à tenir. Comme disait déjà Voltaire, Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Et on sent bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la Bible, dans le Coran, qu'on voit que Dieu parle, qu'il a des passions, qu'il s'énerve, qu'il regrette, on se dit mais c'est pas possible, si Dieu existe c'est autre chose, c'est beaucoup plus profond. Ça nous échappe totalement, on n'est pas dans cette vision si humaine de Dieu. Et donc c'est effectivement un échec, je dirais, c'est un échec des motivistes, parce qu'ils n'ont pas su relire leur texte fondateur avec un esprit critique pour expliquer que, dans la Bible, dans le Coran, il y a des passages qui sont très humains, qu'on a humanisé Dieu, mais que l'essence divine échappe totalement, si vous voulez, à toutes ces déterminations humaines. Et au fond, les monothéismes ont recréé de l'idolâtrie. Elles ont lutté contre l'idolâtrie. Elles ont condamné toutes les, on va dire, les dieux, les statues, les objets, etc. Mais elles ont parlé d'un dieu qui était tout aussi une idole, c'est-à-dire un être déterminé comme un objet qu'on peut objectiver, c'est-à-dire qu'on peut en parler de son caractère, de son tempérament, de qui il est, de comment, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas, etc. Et donc, je crois que là, les monothéistes, si elles veulent continuer dans l'avenir, dans cette modernité critique à exister, doivent faire une relecture théologique très profonde de leur langage, de leur catéchèse, etc., pour ne plus avoir ce langage trop simpliste pour parler de Dieu.
Dans votre livre « L'âme du monde », vous mettez en scène sept sages qui vont se réunir pour transmettre à deux jeunes adolescents, un garçon et une fille, leur savoir. Ils vont oublier leurs divergences culturelles pour offrir les clés de la sagesse parce que il est annoncé l'imminence d'un cataclysme planétaire. Quand on lit votre livre, on se pose une question, on se demande mais est-ce qu'il faudra attendre la fin du monde pour qu'enfin les religions se donnent la main et regardent vers la même direction?
Alors la fin du monde ou la fin d'un monde? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être aller à la catastrophe pour changer de logique. Et l'être humain, l'histoire de l'humanité le montre, c'est bien souvent lorsqu'on vit des grands drames, des bouleversements, des révolutions, des invasions, des épidémies, que on se remet en question et qu'on change. Regardez le XXe siècle, il a fallu vivre deux guerres mondiales épouvantables, le Goulag, Auschwitz, Hiroshima, pour que on commence en Europe au moins à se dire on va plus se faire la guerre. Donc là, on voit que effectivement l'être humain, malheureusement, et c'est lorsqu'il est confronté à l'inéluctable qu'il a des ressources extraordinaires pour changer, pour s'adapter. Et je crois que la vision religieuse dominante du monde d'aujourd'hui est encore très conditionnée par des schèmes du passé, et que si elle touche une intuition profonde, je le redis, je crois qu'il existe un monde invisible, quelque chose qui nous échappe, que la vie est une énigme. Je suis pas du tout scientiste, j'ai une vision au contraire, je dirais, très spirituelle du monde, mais je pense qu'en même temps, on ne sait pas encore bien parler de cet indicible. On en parle avec un langage du passé. On le conceptualise avec des mythes qui datent de l'Antiquité. Et qu'aujourd'hui, il faut retrouver tout un langage pour pouvoir dire quelque chose d'audible sur cette dimension mystérieuse de la vie et du monde qu'on peut appeler le divin ou Dieu.
Frédéric Lenoir, vous êtes historien de la religion, vous êtes aussi écologiste et vous avez écrit sur ce thème. Je vous propose d'écouter ce montage à propos d'écologie d'Alexandre Lemierre.
D'abord, d'être écolo, c'est d'aimer la vie. Et aimer la vie, c'est aimer les gens. Et l'écologie politique, elle n'aime pas les autres.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
On est tous obnubilés par les emplois, par la crise économique. Est-ce qu'on va garder notre confort? Certainement que non. Je pense que de toute façon, l'épuisement des ressources, ce qui va passer dans le monde, montre bien qu'un jour, il y aura moins de pétrole, il sera trop cher, donc il va falloir qu'on vive mieux avec moins.
Le saviez-vous?
Mon programme présidentiel Ushuaïa peut se lire sous la douche.
Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire.
Comment voulez-vous diriger une entreprise s'il n'y a pas un sens à ce que vous faites en dehors du sens capitaliste de l'entreprise? Mmh. Il doit y avoir autre chose. Et cette autre chose, les systèmes de valeurs ont changé, la nécessité s'impose à nous, nous devons faire quelque chose, et au niveau de l'entreprise, c'est aussi vrai. La solution, c'est de consommer différemment. Mmh. Et donc, quand vous le percevez comme ça, vous vous créez des opportunités, vous vous ouvrez de nouveaux horizons, et je trouve que c'est très très dynamisant pour une entreprise d'envisager les choses sous cet angle-là.
Il faut que tu respires.
Oui, c'est mon film, mais c'est aussi son film. Parce que je pense pas que Pinault va vendre un jean de plus
ou un meuble de plus chez Conforama parce qu'il a fait ce film.
Non, mais vous savez, vous savez bien que c'est pas son but. Son but, c'est pas de vendre plus. Son but, c'est de se faire une image verte.
Je vais vous dire.
Bah, vous le savez bien.
Il s'est mis une épée dans le dos en faisant ça. Il le sait très bien. Et je pense que le film l'a un peu transformé.
Quelle épée dans le dos?
Quand vous faites un film en disant, en parlant d'environnement et d'écologie, enfin, quand vous êtes un industriel, vous devez répondre de tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils doivent se transformer plus vite que les autres.
Le saviez-vous?
Si tu prends une douche froide, c'est écolo, mais ta quéquette rétrécit.
C'est qu'on a tous quelque chose à dire, et c'est la solution, on va la trouver ensemble, avec la caissière de la FNAC et avec François-Henri Pinault.
J'allais dire c'est moins drôle que les extraits de films, mais finalement pas réellement. Grâce au guignol parodiant Nicolas Hulot, nous avons entendu aussi Yann Arthus-Bertrand parler de son film Home dans l'émission de Téléarrêt sur Image, dont qui était coproduit par François-Henri Pinault, que nous avons aussi entendu. Et puis Mickey 3D, l'une des plus belles chansons sur l'écologie, qui s'appelle Il faut que tu respires. Nicolas Hulot et Yann Arthus-Bertrand, selon vous, Frédéric Lenoir, est-ce que ce sont les meilleurs porte-parole de la cause écologique?
Je dirais pas que c'est les meilleurs, ce sont des bons porte-parole à cause écologique, à commencer par le fait qu'ils sont populaires. Et le fait d'être populaire permet de diffuser des idées, et je trouve bien qu'ils utilisent leur notoriété, ils n'étaient pas obligés de le faire, ni l'un ni l'autre, pour défendre cette cause-là. Parce que Nicolas Hulot, il a commencé par faire Ushuaïa Passion, on était dans le sport, dans l'exploit, etc. Et puis il a bifurqué vers l'écologie, et je trouve qu'en tout cas, je connais mieux Nicolas Hulot que Yann Arthus-Bertrand à titre personnel, j'ai plus davantage lu, je le connais. Je trouve que c'est un excellent, effectivement, ambassadeur. Et il l'est d'ailleurs, c'est sa fonction aujourd'hui, puisqu'il travaille pour la France, il est ambassadeur auprès des organisations internationales pour l'environnement. Et je pense c'est un homme de conviction et qui parle très bien de ces questions-là, qui est très lucide. Et je trouve vraiment formidable qu'il consacre son temps, son énergie à faire ça, plutôt que à vivre tranquillement et profiter de tout ce qu'il a acquis auparavant.
Tout de suite, on marque une pause, on fait un point sur la circulation.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Martigny-Vevey, un véhicule en panne provoque de forts ralentissements entre Villeneuve et le tunnel de Glion en direction de Vevey. La voie de droite est bloquée. En Valais, la route qui relie Vercorin à Loeil est fermée dans les deux sens et jusqu'à nouvel avis suite à un éboulement.
Thank you.
Don't Give Up, Robin McQuell and the Flystones. Frédéric Lenoir est aujourd'hui l'invité de Pour un oui, pour un son à l'occasion de la sortie de son nouvel essai Du bonheur, un voyage philosophique chez Fayard. De quand date votre intérêt pour l'écologie? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous vous êtes senti sensibilisé par le sujet?
Alors j'ai toujours aimé la nature, déjà. C'est-à-dire que je pense que c'est pas un hasard si on s'intéresse à l'écologie, c'est qu'enfant j'adorais la nature. Et quand j'ai commencé à voir que les glaciers reculaient, parce que j'allais tous les ans dans les Hautes-Alpes, on avait une petite maison dans un petit village, et là je voyais le glacier où j'allais randonner, bah il reculait d'année en année. Donc je me suis dit, il y a un vrai problème, que je voyais la pollution augmenter, que je voyais... Et donc tout ça m'a amené, quand j'étais adulte, à me dire mais je peux pas laisser faire ça, il faut qu'à mon petit niveau j'agisse. D'où des actions personnelles, c'est-à-dire le fait d'essayer de circuler le moins possible en voiture, le fait de trier mes déchets, enfin c'est des petits gestes du quotidien que j'essaye de faire. Et puis j'essaye aussi dans mes ouvrages, que ce soit Le temps de la responsabilité il y a 25 ans, que ce soit Mal de terre avec Hubert Reeves il y a une dizaine d'années, que ce soit La guérison du monde il y a un an, j'essaye aussi de transmettre ces convictions dans une réflexion, dans des points de vue.
Dans Petit traité de vie intérieure, vous racontez aussi votre intérêt pour la méditation. Vous méditez quotidiennement, écrivez-vous depuis bien longtemps. Est-ce que c'est une prise de recul nécessaire pour mieux avancer dans ce monde où tout va très vite de méditer?
C'est oui, un petit peu ce que et vous surtout dites. Que je suis un hyperactif. C'est-à-dire que j'en ai d'autant plus besoin que je suis un hyperactif. Et donc je crois qu'il faut toujours équilibrer l'action et le retrait. Un être humain qui a besoin de moments d'action où il est engagé, où il est dans véritablement l'énergie qui le porte à créer. Et puis il a besoin aussi de moments où il réfléchit, il est dans la présence à ce qui est, à lui-même, sans rechercher la moindre efficacité. Et c'est cet équilibre-là, moi, qui me permet de faire tout ce que je fais avec joie. Parce que je suis jamais asphyxié. J'ai toujours un temps dans la journée où je prends du recul, où je respire, où je suis totalement dans la présence et pas dans la recherche de faire quelque chose. Là, on fait une émission, on avance, après je vais faire une autre émission. Donc il y a toujours des moments d'action comme ça dans lesquels finalement on n'est pas totalement disponible, on n'est pas totalement à l'écoute de soi, de la respiration de la vie. Et je prends des moments de méditation qui sont à la fois des moments de méditation je dirais classique, c'est-à-dire je m'assieds sur un coussin et puis je fais de silence, mais aussi j'aime me promener dans la nature, j'aime voilà ne rien faire tout simplement et être à l'écoute de ce qui est.
Toujours dans ce même livre, Petit traité de vie intérieure, vous écrivez « J'ai connu la pauvreté quand je me suis retiré quelques années dans une communauté religieuse. Avant d'entamer cette démarche, j'avais distribué tous mes biens, jusqu'à mes disques et mes livres, auxquels je tenais pourtant beaucoup. » Dans Pour un oui, pour un son, on aime beaucoup les livres et les disques. De quel livre et de quel... disque ouais. S'agissait-il
d'ailleurs l'époque. Je regrette aujourd'hui d'avoir donné certains vinyles parce qu'ils sont introuvables.
Ah, je les ai pas rachetés.
Non, je les ai pas rachetés, mais c'est évident que quand je l'ai fait parce que voilà, j'ai voulu mener une expérience de pauvreté, de don total. Vous savez, quand j'ai eu 20 ans, que j'ai découvert les évangiles, je voulais être un saint. C'est-à-dire, je me suis dit, mon ambition, c'est vraiment de m'oublier, d'être totalement dans le don, etc. Puis c'est épuisant, donc je me suis épuisé. Et au bout de quelques années, bon, je suis revenu à une ambition moindre, qui est plutôt de gagner un peu en sagesse et en sérénité. Et donc j'ai repris une vie dans le monde. Mais cette expérience de plusieurs années de dépouillement m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai découvert par exemple qu'une pauvreté radicale, j'avais plus rien, plus aucun objet, on avait juste un toit et de quoi manger de manière plutôt rudimentaire, c'est quelque chose qui m'a pas empêché du tout d'être heureux. Alors j'étais malheureux pour d'autres raisons, parce que j'étais pas fait pour une vie communautaire, parce que j'ai étouffé dans l'église de plus en plus, mais au fond ça m'a fait expérimenter qu'on pouvait être très heureux avec trois fois rien. Et je trouve que c'est, je vais répondre à votre question, mais j'ai envie de dire un mot là-dessus. Parce qu'Épicure nous dit une phrase que je trouve très juste. Il s'émerveille en disant bienheureuse nature, qui fait que les choses dont nous avons le plus besoin sont faciles à trouver et à obtenir, et les choses difficiles à obtenir, nous n'en avons pas besoin. Autrement dit, on se complique beaucoup la vie pour pas grand-chose. Et j'ai vécu ça. Pendant des années, j'ai vécu avec trois fois rien, et j'étais heureux simplement de pouvoir contempler la nature, de pouvoir avoir des instants de rencontre avec des belles personnes, etc. Et donc, et puis savourer, vous savez, quand vous mangez quelque chose de très simple, mais qui est bon, mais qui est très simple, vous avez plus de plaisir qu'à manger quantité de mets raffinés qui vous coûtent très cher, et vous êtes même pas attentif à les savourer parce que vous parlez d'autres choses, etc. Donc finalement, en étant attentif aux petites choses du quotidien qui nous sont offertes gratuitement, on peut être très heureux. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Après, quel disque et quel livre j'ai donné? Les disques, c'était toute ma collection. Alors, il y avait Deep Purple, Pink Floyd, Beatles, très classique.
On ne peut pas être un saint en écoutant Deep Purple.
C'est pas ça, c'est que dans un monastère, la règle, c'est qu'on arrive avec rien. Donc on n'a rien, on n'a pas de divertissement. C'est peut-être excessif d'ailleurs, mais l'idée c'est qu'on ne doit pas se divertir. On doit être présent à ce qui est, sans chercher à sortir, si vous voulez, de l'essentiel. Et c'est peut-être excessif. Je pense que c'est bien d'écouter de la musique. Je pense que c'est il y a des choses. Mais en tout cas, on peut éventuellement le partager si ça vous est donné, mais on ne doit pas arriver avec ses propres possessions. C'est une sorte d'égalitarisme absolu, comme ça. Les riches, les pauvres, on s'en fiche. On arrive avec rien. Mais c'est vrai que dès que j'ai pu, j'ai racheté effectivement toutes les musiques que j'aimais, et encore aujourd'hui dans ma playlist, on retrouve quasiment tous les disques que j'avais adolescent.
Et les deux, trois livres que vous avez le plus regretté ou le plus eu de mal à donner?
Ça, j'ai eu moins de mal.
Ah, c'était plus de musique à
l'époque. Oui, parce que les livres, quand vous les avez bien lus, vous n'avez pas besoin de les relire indéfiniment. Mmh. Un disque, vous l'écoutez indéfiniment. Il y a plus d'émotion dans la musique. Et donc, j'ai eu pas trop de mal à me séparer de Victor Hugo, de très classique, vous allez voir mes goûts, c'était beaucoup de romans du 19e siècle, Balzac, Flaubert, etc. Et puis Dostoïevski, que j'aimais beaucoup, Hermann Hesse, j'ai beaucoup aimé ses romans initiatiques. Donc voilà, j'avais une petite bibliothèque de livres dont je me suis séparé sans trop de difficultés, mais c'est pareil, j'en ai racheté quelques-uns quelques années plus tard.
Quelques-uns de vos livres que vous avez écrits, vous les avez coécrits avec de prestigieuses personnalités. Je vous propose d'en écouter quelques-unes d'entre elles.
Belle de jour, c'est le titre d'un livre de Kessel, dont l'adaptation a été faite par Bunuel et Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures. Sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée.
Jean-Claude Carrière, comment est-ce de travailler avec Bunuel ?
Oh, c'est une aventure fantastique, vous imaginez ? Je ne peux pas vous dire, c'est une prise en charge complète par Bunuel de la personne qui travaille avec lui. À tous les points de vue matériels aussi, il s'occupe de tout. De tous les problèmes qui vous concernent, de logement, d'alimentation. On est entièrement sous la responsabilité de quelqu'un qui a une personnalité telle qu'on n'a pas envie d'y échapper.
Mes amis. Alors, il y a une chose qui semble tout à fait claire aujourd'hui, c'est que l'atmosphère de notre planète, surface de notre planète, se réchauffe. On a gagné pas tout à fait un degré, mais à peu près depuis le début du siècle, même depuis les derniers 50 ans.
Mes amis, chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu, devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris, Merci. Mes amis.
Alors, Umberto Eco, votre mot préféré ?
À savoir.
Le mot que vous détestez ?
Occupé.
Votre drogue favorite ?
Le tabac, hélas.
Le son, le bruit que vous aimez ?
Le silence.
Le son, le bruit que vous détestez ?
Le silence, parfois.
Nous avons entendu Catherine Deneuve et Jean-Claude Carrière, Hubert Reeves, Umberto Eco et l'abbé Pierre. Vous avez coécrit avec l'abbé Pierre Mon Dieu pourquoi, avec Hubert Reeves Mal de terre, et faisait partie de Entretiens sur la vie des temps, entre autres Jean-Claude Carrière et Umberto Eco. Quel souvenir vous gardez de ces rencontres, ou si il y a un souvenir en particulier parmi ces personnalités qui vous revient?
Celui qui m'a le plus marqué, je pense, parce que je l'ai connu très longtemps, vu très souvent, j'ai fait 4 livres avec lui, c'est l'abbé Pierre. Donc il m'a marqué par sa personnalité incroyable, c'est une personnalité extrême, et qui était tellement chaleureux, enfin voilà, donc il y avait un lien affectif, je dirais, très très unique avec lui. Après, j'aime beaucoup Hubert Reeves, c'est quelqu'un que je connais bien aussi, on a fait ce livre, mais au-delà de ça, il y a une histoire amicale, voilà, j'aime bien discuter avec lui, c'est un homme très ouvert, intelligent, qui aime la nature, on se promène ensemble de temps en temps, donc c'est aussi une relation amicale. Les autres, je les connais moins, Jean-Claude Carrière ou Umberto Eco, c'est des gens que j'estime, que j'admire beaucoup. On a eu l'occasion d'échanger pour des livres. Ce sont moins des aventures amicales, mais Jean-Claude Carrière, j'ai pas mal de souvenirs. Je veux donner un seul petit souvenir. Un jour, je le vois tourner son agenda, on devait prendre des rendez-vous, puis je voyais des journées barrées dans son agenda, et il n'y avait rien de marqué. Je lui dis, mais pourquoi tu sur ton agenda, tu barres des... Il dit, mais je prends des rendez-vous avec moi-même. Et donc, le 1er janvier, quand je reçois mon agenda, je me barre une dizaine de journées dans l'année, et je sais que je ne prendrai aucun rendez-vous ce jour-là. J'ai trouvé ça remarquable et je fais la même chose.
Ça tombe très bien. Alexandre Lemierre, le réalisateur de cette émission, a croisé il y a quelques jours Hubert Reeves, qui a une question pour vous, Frédéric Lenoir.
J'ai une question pour vous.
Bonjour Frédéric. Alors voilà, je voudrais te poser une question. On en a déjà parlé, mais ça serait bien que tu en parles. Comment expliquer le peu d'intérêt et d'initiative que les autorités religieuses, de toute nature, chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes, accordent aux menaces environnementales, à part quelques belles paroles? Comment ne s'en rendent-ils pas compte, si on peut dire, qu'avant le ciel, il y a la vie sur la terre? Est-ce qu'il n'y a pas là une irresponsabilité de leur part ou un aveuglement? Alors, je sais que c'est pas facile de répondre à ces questions, mais peut-être tu aurais des choses intéressantes à dire là-dessus. Je te remercie, puis je me réjouis de penser qu'on se revoit bientôt. Au revoir, Frédéric.
J'ai une question pour vous.
C'est sympa ça d'avoir rencontré Hubert. Je crois que la question est pas simple. Je mettrai le bouddhisme à part, parce que le Dalai Lama, de très nombreuses fois, au nom du bouddhisme, qui est une pensée religieuse et philosophique, qui ne met pas l'homme complètement à part du reste des vivants. Il y a une continuité dans la chaîne des vivants et la compassion bouddhiste, par exemple, s'applique aussi à tous les animaux. Et pour les bouddhistes, on peut très bien se retrouver dans une autre vie, dans le corps d'un animal. Donc là, à part le bouddhisme, je crois qu'effectivement, la question pour les monothéistes, c'est qu'elles mettent l'homme tout à fait au-dessus et à part du reste du monde, de la création, et donc les animaux, la vie, la planète, etc., est une sorte de cadre dans lequel l'homme, qui est l'être principal aux yeux de Dieu, doit s'épanouir. Et tout est centré sur l'homme. Ce qui fait que leur préoccupation principale, c'est la vie morale de l'homme, comment est-ce que l'homme peut progresser, se comporter de manière juste vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de Dieu, etc. Et donc, du coup, par leur propre orientation, dès le départ, elles sont peu portées à parler de l'environnement et de la nature. Puis la deuxième raison, c'est que elles sont aujourd'hui, les religions sont toutes en concurrence, les unes par rapport aux autres à l'échelle planétaire, et que leur principal souci, si on regarde bien, c'est d'essayer de prendre des croyants ou de pas en perdre trop. Et du coup, elles n'ont plus, ou elles n'ont pas ce sens de la responsabilité collective de se mettre au-dessus de tout ça. Et de dire, mais quelles que soient nos divergences, il y a un enjeu majeur, planétaire, c'est qu'on est tous sur la même planète et qu'elle peut aujourd'hui rendre la vie humaine impossible. Et malheureusement, les religions qui sont trop à défendre un petit peu dans une situation de crise où elles sont très secouées, pensent plus à essayer de convertir de nouveaux adeptes ou d'éviter d'en perdre que de s'intéresser aux grands défis collectifs. Et c'est là, je partage le point de vue d'Hubert, c'est très dommage parce que ça devrait être les premières à réagir et à nous dire, attendez, si on tient à l'humain, il faut peut-être qu'on rende la Terre habitable, durablement.
Les mains sont boîtes à caresses, les bouches boîtes à bisous, les lits sont boîtes à paresse, tout n'est que boîte après tout. Les yeux sont boîtes à images, les fleurs boîtes à parfum, les rêves boîtes à voyage qu'on referme le matin. Et le monde, le monde, rien qu'une boîte ronde, le monde, une boîte, le monde, rien qu'une boîte ronde où s'emboîtent toutes les boîtes. Boîte à rimes, les poèmes, boîte à crimes, les revolvers, et la grande boîte à je t'aime qui bat sous les pulls. Boîte de pluie des nuages, boîte à poissons l'océan, et selon certains ouvrages, les mamans boîte à enfants. Boîte à voiture, boîte à étoiles, boîte à caresses, boîte à bisous, boîte à paresse, tout n'est que boîte après tout.
Camélia Jordana, les boîtes.
Pour un oui. Pour un son.
Frédéric Lenoir est aujourd'hui l'invité de Pour un oui, pour un son, à l'occasion de la sortie chez Fayard de son nouvel essai, Du bonheur, un voyage philosophique. Frédéric Lenoir, je vous propose d'écouter tout de suite un petit medley, comme on disait dans les années 80, un montage sonore d'Alexandre Lemierre sur le bonheur en chanson.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré, vire aux mauves pensées ou passer. Autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dit qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.
C'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. C'était John Birkin, Don't Worry Be Happy. Plein de positivisme, Bobby McFerrin, Il y a de la joie, Charles Trenet, Tout le bonheur du monde, Cynthia Millat. Et c'est quand le bonheur, la question était posée par Cali. Quelques débuts de réponses, des réflexions autour de ce thème. On les retrouve, Frédéric Lenoir, dans votre nouveau livre du bonheur, Un voyage philosophique. Livre dans lequel vous expliquez que la conscience du bonheur est essentielle pour vivre le bonheur. Être heureux sans le savoir, c'est être un peu malheureux.
En tout cas, c'est important de conscientiser les moments heureux. Jacques Prévert a cette phrase merveilleuse, il nous dit « J'ai entendu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Et on a tous expérimenté ça. C'est-à-dire des moments où on n'avait pas spécialement conscience d'être heureux, et puis d'un coup, il arrive un choc dans notre vie, on perd quelqu'un de proche, on perd notre boulot, et, truc, et d'un coup on se dit « Mais parce qu'aujourd'hui je suis malheureux, je me rends compte que finalement j'étais très bien avant, mais j'en avais pas conscience. Je n'en prenais pas conscience. Et je crois que c'est très important d'avoir conscience de tous ces petits moments au quotidien qui fait qu'on est heureux. Tous ces petits plaisirs, toutes ces petites choses qu'on peut savourer, qui coûtent rien d'ailleurs. Hein, c'est vraiment les rencontres qu'on fait, les parfums, on marche dans la rue, on croise un beau visage, un beau sourire, on écoute une petite musique. Être attentif à ce qu'on fait, être présent, et du coup notre journée n'aura pas été inutile. On s'apercevra qu'en fin de journée on sera bien, même si on peut avoir des soucis par ailleurs. Or, la plupart du temps, nous ne sommes pas attentifs aux choses positives. On a tendance à toujours ruminer, à être projeté dans le futur en disant qu'il faut que je règle tel truc pour qu'est-ce que je vais faire demain, etc. À être dans la culpabilité du passé, ça c'est pas, j'aurais dû faire ça, etc. Et on vit pas l'instant présent. Mais et donc on profite pas des choses.
Vous le dites aussi dans votre livre. Oui. Ça peut être utile d'être concentré aussi davantage sur les mauvaises choses pour pouvoir s'y préparer.
Alors ça, c'est les biologistes qui nous disent ça. C'est que les biologistes nous disent pourquoi est-ce que l'être humain finalement conscientise davantage les choses négatives que les choses positives. C'est un avantage évolutif. C'est-à-dire que c'est ce qui lui a permis de dépasser tout un certain nombre de dangers, d'épreuves, etc. Parce que sa mémoire lui permet d'enregistrer qu'il y a un danger. Et que s'il est dans telle situation, attention. Bon. Mais aujourd'hui, on en a beaucoup moins besoin. Et donc, il faudrait réapprendre, et c'est ce que les philosophes grecs nous disent déjà, il faut réapprendre à conscientiser les moments positifs et pas que les moments négatifs, qui est un truc compulsif, adaptatif. Et donc là-dessus, je crois que c'est une grande vérité, c'est que le bonheur tient beaucoup à la conscience qu'on a d'être heureux et ça se passe au quotidien.
Et vous nous dites aussi qu'il est impossible d'être heureux si on ne le veut pas, ce qui est quand même une énorme différence avec le malheur. C'est très facile d'être malheureux, même sans le vouloir.
Oui, ça, évidemment. Non, je crois que je ne dis pas forcément qu'il faut vouloir être heureux pour être heureux. C'est un peu plus complexe.
On ne peut pas l'être sans l'accepter, en tout cas.
Oui, en tout cas, il y a des
gens... Pas obliger quelqu'un à être heureux.
Exactement. Il y a des gens qui refusent le bonheur. Il y a des gens qui refusent le bonheur, mais pour des raisons très diverses. Vous avez des gens qui refusent le bonheur parce qu'ils sont névrosés, et donc ils ont subi de la maltraitance enfant, ils ont été malheureux et ils sont incapables d'être heureux. Et dès que quelque chose est positif, il faut qu'ils le tournent en négatif. Vous avez des gens qui sont incapables d'être heureux parce qu'ils ont un tempérament génétique qui les rend particulièrement ultra sensibles, douloureux, pessimistes, et que donc ils broient du noir, et malheureusement... C'est une malchance, mais on peut travailler là-dessus. Il y a la possibilité, heureusement, de changer. Et puis, vous avez des gens qui veulent pas être heureux pour d'autres raisons, parce qu'ils préfèrent le plaisir au bonheur, ils préfèrent l'intensité d'un plaisir immédiat, même s'ils savent que ça va complètement déséquilibrer leur vie, qu'ils seront très mal après. Par exemple, les drogués. Vous avez des gens qui se défoncent complètement, qui vivent des passions amoureuses dingues, ils savent très bien qu'ils seront très malheureux après. Mais ils préfèrent vivre ça qu'une vie équilibrée. Le bonheur, c'est un équilibre, c'est une harmonie. Et donc, souvent, on renonce au bonheur pour vivre l'intensité du plaisir. Et puis enfin, il y a les gens qui renoncent au bonheur parce qu'ils mettent une valeur éthique au-dessus du bonheur. Et ils vont dire la justice, l'amour est plus important, la liberté est plus importante que le bonheur. Nel seulement dès là, quand il passe 30 ans en tôle, au nom d'un idéal de liberté et de justice, il a renoncé à son bonheur personnel.
C'est pas toujours un choix non plus. Quand vous parlez des drogués, c'est plus une maladie, une dépendance.
Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un choix. C'est-à-dire qu'il peut y avoir évidemment une dépendance, mais vous avez des gens, moi je connais des philosophes, qui vous disent je ne veux pas être heureux parce que je préfère la passion.
Alors ils se droguent.
Alors ils se droguent. Je connais qui prennent de la coke.
On va prendre quelques noms donc.
Mais et qui préfèrent des passions amoureuses successives qui mettent de l'intensité dans leur vie et qui disent le bonheur ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je préfère cet équilibre, ce balancement permanent entre le bonheur et le malheur que un état de sérénité, de paix, de joie durable.
Vous parlez d'une étude assez étonnante américaine dans votre livre du bonheur, Un voyage philosophique, qui détermine que les gens qui ont la foi vivent plus longtemps. Pourtant, les non-croyants arrivent plus vite au paradis quand on y pense. Ce n'est pas un très bon calcul, cette histoire.
Non, mais c'est...
Et l'étude est réelle?
Oui, l'étude est réelle, bien sûr. C'est-à-dire que les études statistiques portent évidemment sur des grands nombres, et donc c'est pas tous les croyants ne sont pas plus heureux que tous les incroyants. Mais globalement, statistiquement, la foi aide au bonheur, parce que ça donne confiance dans la vie, et que la confiance est une des raisons essentielles du bonheur.
Et donc, le bonheur permet de vivre plus longtemps, parce que là, l'étude disait... La longévité est plus importante chez les croyants.
Parce que chez une majorité de croyants, les gens ne se droguent pas, ne boivent pas d'alcool, ne fument pas, sont plus stables sur le plan affectif, etc., etc. Donc toutes ces raisons-là sont des bonnes conditions pour vivre plus longtemps.
Juste pour terminer, je sais que vous avez en projet un film, votre premier film. Le scénario est déjà écrit. En deux mots, c'est l'histoire de Marie de Magdala, c'est ça?
C'est Marie de Magdala qui raconte... J'avais envie de faire un film sur Jésus, parce que vous avez compris, ça a été une rencontre forte de ma vie. J'ai envie de le dire de manière moderne.
Vous pouvez nous rappeler Marie Magdala en deux mots, donc c'était une...
Marie de Magdala, d'après l'évangile, il n'y a que ça qui nous en parle. C'est une femme qui était, entre guillemets, une pécheresse. C'est-à-dire, on pense que c'était une courtisane riche, qui à un moment donné s'est convertie, c'est-à-dire qu'elle a changé de vie pour suivre Jésus, elle a donné ses biens, elle entretenait les apôtres qui étaient pauvres, et c'est la première femme qui va assister, selon l'évangile, à la résurrection de Jésus, c'est la première témoin de cet événement, et on voit qu'elle aimait éperdument Jésus, elle était amoureuse de Jésus. Donc moi je sais absolument pas après ce qu'il y a eu entre eux, là-dessus on n'a pas d'informations, et tous les délires du Da Vinci Code ne reposent sur rien, mais... On n'en sait rien. Toujours est-il que ce qui m'intéressait, c'est de voir le regard d'une femme entière, d'une femme qui a vécu, d'une femme qui est intense, d'une femme qui a évolué. Et je trouve qu'elle est très moderne, Marie de Magdala, sur ce personnage immense qu'est Jésus. Ça me paraissait intéressant d'avoir le regard et d'une femme qui a connu tous les plaisirs de la vie et qui donc nous ressemble parce qu'elle n'est pas une sainte depuis la petite enfance.
Et le film sortira, vous avez une idée?
On est en train de faire le casting. D'accord. Pour l'instant, c'est un film qui sera tourné en anglais. Et donc, on cherche actuellement il y a une comédienne importante qui est en train de lire le scénario. On verra comment les choses évoluent. Mais c'est très long, le développement d'un film.
Dernière question, Frédéric Lenoir. Le bonheur pour vous en son, quels sont les sons qui vous évoquent le bonheur? Si vous fermez les yeux et que vous voulez vous mettre dans un état de bonheur, quels sont les sons que vous entendez?
Le son de la mer. Le bruit de la mer m'apaise énormément. Le chant des oiseaux. J'aime énormément le chant des oiseaux. Le son des cloches. J'aime aussi les cloches des églises. C'est un son que j'aime bien. Et puis le silence.
Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci d'être venu dans Pour un oui pour un son.
Merci, c'était vraiment un plaisir.
Here is nothing worth of living. Cannot follow the sun, and I know there is something like a summer waiting for us to come. I've made choices, can't deny it, but have I meant what I said? I don't know, I think it's time now to make some changes. Time to get out of my bed. Oh, 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 I follow the rain down to the place where I won't see the sun again. I say, I follow the rain down to the place and I won't see the sun again. Like a shadow. Now let's kill them tonight. Oh, 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 oh,
77 Bombay Street, Follow the Rain. C'était Pour un oui, pour un son, à la réalisation Alexandre Lemierre, programmation musicale Nathalie Schoenberg, et Delphine Oudemont a filmé les coulisses de l'émission, des images à découvrir dès maintenant sur le site de la radio rts.ch, en vous rendant sur la page de l'émission Pour un oui, pour un son, page à partir de laquelle vous pouvez aussi télécharger cette émission pour la réécouter quand vous voulez, où vous voulez. Très bon après-midi à l'écoute des programmes de La Première, et à très bientôt pour un oui, pour un son.
La Première vous offre l'heure.
Il est 17h sur La Première.